RMC, les grandes gueules.
Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse. Bonjour.
Bonjour.
Dites donc, vos collègues Olivier Dussopt et Franck Riester, qui sont ministres, ont fait une gaffe. Ils ont tweeté l'affiche de campagne d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils s'en sont aperçus assez vite puisqu'ils ont supprimé leur tweet.
Ils étaient particulièrement impatients, on va dire ça comme ça. Et franchement, ce qui est mignon, même si le geste est peut-être indélicat et c'est pour ça qu'il a été supprimé, ce qui est mignon, c'est surtout ce qu'on a lancé depuis hier, c'est le « avec vous ». En fait, on trouve que la campagne pour l'instant présidentielle est tellement bas de gamme en termes d'échange, de qualité d'échange. Moi, hier, j'ai regardé...
Dis-moi qu'Emmanuel Macron relève le niveau.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
L'oracle va arriver et tout d'un coup...
Jupiter va arriver.
Ah bah là, Jupiter et les débats seront d'une intelligence.
C'est pas ça. Moi, je crois qu'au contraire, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que c'est quand même plus sympa quand on parle de projets, de débats, quand on prend le temps de s'écouter. Et donc, quand on lance avec vous, il n'y a pas de candidat.
C'est une porte ouverte. Vous voulez lancer contre vous, ça marche pas pareil.
Non, mais avec vous, c'est quoi? C'est une méthode basique, qui est simple, qui dit quoi? Qui dit, je pense que chacun a quelque chose à apporter. On peut en parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Les vraies galères du quotidien, c'est quoi? C'est le logement, c'est la fin de mois.
Ça veut dire que vous êtes impatients, vous êtes tous impatients d'être en campagne.
Pour certains, vous avez raison, madame.
Avec vous,
dès le 10.
Avec vous, c'est la campagne qui a commencé, quoi. On est d'accord.
Avec vous, c'est l'ADN de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que, simplement aller au contact, proposer des témoignages, challenger les idées, faire un état des lieux de ce qui a marché, ce qui a pas marché, mais avec les Français.
Donc c'est fini la Startup Nation, c'est fini les jeunes qui doivent devenir milliardaires.
Ah ben là pour le coup,
la ruse,
pour le coup,
avec vous, avec tout le monde quoi.
Avec vous qui avez un pass vaccinal. Voilà.
Alors allez-y.
Le avec vous, fondamentalement. Non, le avec vous, vous avez raison. Le
pas
avec
vaccinés,
vous.
Les non-vaccinés, vous les emmerdez.
Ah oui, attention.
Non, si on peut être sérieux. Allez, une petite seconde sur un point. Parce que le pass vaccinal, je sais que ça challenge et puis ça crée beaucoup d'émotions. Vous savez, hier, j'étais à Strasbourg. Parce que c'est la présence française de l'Union européenne. Et il se trouve que c'était une des premières réunions de tous les ministres de la jeunesse et de l'éducation. Eh ben, mine de rien, ce pass vaccinal, franchement, moi, je suis pas une fétichiste. Plus vite on l'enlève, mieux c'est. Sauf qu'en attendant, c'est ce qui nous a permis, mine de rien, eh bien, de pas avoir notre pays fermé une deuxième fois, de permettre finalement d'avoir un semblant de vie. Moi, je dis pas que c'est quelque chose de simple. Je dis pas que on s'y habitue.
D'autres
on n'a pas à s'habituer.
D'autres pays sont en train de l'enlever. C'est pas le pass vaccinal qui nous a permis ça. C'est le pouvoir qu'on lui a donné au pass vaccinal. C'est différent.
Ça. Allez au bout de votre idée. Voilà.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pass vaccinal, il a rien apporté. À part à cause du pass vaccinal, ou grâce au pass vaccinal, peut-être, on a décidé qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas faire et que donc on allait forcer les gens à se vacciner. Mais le pass vaccinal en lui-même, il a aucune propriété. Quoi.
Mais vous
aucune.
Savez, monsieur, là où je suis d'accord avec vous,
on peut donner aucun pouvoir au pass vaccinal.
Le pass vaccinal, ce n'est qu'un outil. Vous avez raison. Et à un moment, il faut même, franchement, se détendre avec ce sujet. Le pass vaccinal, c'est un outil. C'est un outil qui nous a permis, effectivement, de réguler qui a le droit, qui n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est ou blanc ou noir, c'est-à-dire où tu fermes, où tu ouvres. Sauf si tu ouvres pour ceux qui sont vaccinés, parce que jusqu'à la preuve du contraire, le Covid, même si le variant il est moins grave aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qui est à peu près posé par, on va dire, les scientifiques et les médecins. Il y a quand même 300 morts par jour. C'est l'équivalent d'un crash d'avion quand même.
Oui, mais il y en aura tout le temps.
Par jour.
Faut arrêter de faire croire aux gens qu'il n'y aura pas de morts du Covid. Il y aura des morts du Covid, comme il y a des morts de la grippe, comme il y a des morts du cancer, comme il y a des morts d'accidents bêtes que tu tombes chez toi, tu te cognes la tête et tu meurs comme un accident de voiture. Faut arrêter de vendre aux gens qu'on va arriver avec le pass vaccinal au risque zéro.
Mais c'est avec le vaccin, madame, c'est pas le pass vaccinal.
Quand même,
c'est pas le pass vaccinal.
Et c'est le vaccin, c'est juste du chantage. Moi, je trouve le côté inadmissible, et je le dis toutes les semaines et ailleurs aussi, c'est inadmissible parce que c'est même pas ça avoir une vie sociale. Il y a des gens qui avaient déjà une vie enclavée, qui étaient déjà fragilisés et qui le sont encore plus aujourd'hui. Les gens sont en dépression nerveuse et ils se sentent être plus que jamais des sous-citoyens, etc., etc. Normalement, un grand pays traite de la même manière tous ses citoyens, fait de la pédagogie et pas du chantage à la vie sociale, du chantage au travail.
C'est
inadmissible.
Je vais vous répondre, madame. Le pass vaccinal, pour moi, c'est ce qui a permis aujourd'hui à 92% des Français, d'être vaccinés.
C'est le pass sanitaire.
Et aujourd'hui la transformation du pass... Aujourd'hui, c'est la transformation du pass vaccinal.
Sauf que maintenant, il ne sert plus à rien.
Sauf que, non, juste,
avec Omicron, il ne sert plus à rien.
C'est le pass Pfizer.
À quoi il a servi?
Il a servi, mais aujourd'hui, il ne sert plus à rien. D'ailleurs, des pays sont en train de le lever autour de nous.
Pour le moment, il y a des pays qui le lèvent. Chacun a choisi de gérer sa crise sanitaire comme il voulait. Nous, on est un grand pays. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé personne mourir à l'entrée des hôpitaux. Parce qu'on ne demande pas aux gens si on les soigne ou si on ne les soigne pas. Parce que mine de rien, alors que en attendant, il y a des pays qui ont fait payer les tests au maximum. Il y a des pays qui ont fermé leurs écoles quatre fois plus que nous. Et c'est ça qui démultiplie les inégalités. C'est ça qui pousse les gens
de fermer les écoles. Excusez-moi, je suis obligée d'intervenir sur ça. Excusez-moi.
Dans les deux cas, c'est le peuple qui les paye.
Ne pas fermer les écoles.
Non, sauf qu'en attendant. Vous pouvez pas faire la différence.
Excusez-moi, madame, la moitié des écoles ne sont pas fermées, mais la moitié des élèves n'ont pas de continuité pédagogique. Vrai. Et les parents
faute
sont
pris. Remplaçants.
Ils n'ont pas de remplaçants. Les profs sont malades, les enfants sont malades, tout le monde est malade. Mon fils, ça fait un mois qu'il n'a pas l'école, en fait, entre les cas positifs et les cas et lui-même Covidé, etc. etc. Donc oui, vous n'avez pas eu le courage de fermer les écoles.
Au contraire.
Parce que derrière, il y a
courage de les garder ouvertes.
Excusez-moi, il y a des mesures à prendre pour les parents, pour accompagner les parents, pour mettre en place des mesures de continuité pédagogique, comme il n'y en a pas eu pendant le premier Covid, etc. Mais aujourd'hui, la moitié des élèves de France, en plus d'être traumatisés, en plus de croire qu'ils vont mourir et faire mourir leurs entourages qui sont fragiles ou pas, en plus, n'ont pas de continuité pédagogique et n'ont pas cours. Et ça aussi, ça crée des inégalités. Il n'y a pas tout le monde qui a des parents qui sont en capacité de leur faire le programme scolaire à la maison.
Alors, juste sur l'école, parce que sur l'école, c'est hyper important.
J'ai bien fait de venir.
Mais je pense que c'est un moment qui est important. Et puis, il faut être un petit peu honnête dans le débat. Et je pense que ça fait 2 ans qu'on a, dans le fond, quelles que soient les méthodes, tu fais bien, tu fais pas bien, c'est la bonne mesure, pas la bonne mesure. Oui. Dans le fond, on est tous en train de lutter contre un truc qui s'appelle Covid. En attendant, c'est lui l'ennemi. Moi, je veux bien qu'on fasse beaucoup de reproches. Mais l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont fermé. Alors à ce moment-là, c'est plus la moitié des élèves qui ont finalement la chance d'aller à l'école ou pas. C'est personne. Et résultat des courses, c'est est-ce que tu accompagnes les 50, et en réalité c'est bien plus de 50, qui viennent à l'école? Moi, ma réponse est oui, c'est ce qu'a voulu faire Jean-Michel Blanquer. Maintenant, est-ce que c'est facile?
Tu abandonnes les autres?
Mais pas du tout.
Mais si.
Parce que comment on fait pour les autres? On essaie de recruter des enseignants supplémentaires. On met des moyens financiers. On met des fonds pour les fameux capteurs de CO2. On essaie de protéger les enseignants en avançant.
D'accord. Avec le recul.
Dans le fond, sincèrement, le plus simple, le moins galère, si on voulait pas avoir cette discussion, ça serait de dire. On ferme.
Mais avec le recul, est-ce que quand même maintenant avec le recul, après 2 ans de pandémie, est-ce qu'on n'a pas quand même été un peu trop sévère avec, je parle pas des écoliers, je parle des étudiants,
avec la jeunesse que vous représentez,
à qui on a quand même privé cette jeunesse de vie quand même, de jeunes, alors qu'ils étaient très peu impactés par cette maladie, ils le sont toujours pas. Est-ce que avec le recul, on referait la même chose? Sans doute pas.
Eh bien justement, votre réponse dans un instant. Est-ce que ce Covid a sacrifié la jeunesse? Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse, est l'invité des GG sur RMC, RMC Story, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et c'est Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse, qui conclut cette semaine. GG, il y avait la question d'Olivier, savoir si c'est pas la jeunesse qui a été la sacrifiée du Covid.
En vrai, notre job, c'est de tout faire pour qu'elle soit pas sacrifiée, parce qu'on lui a déjà beaucoup demandé. Non, mais qu'est-ce qu'on lui a beaucoup demandé, parce que au début, eh bien, c'est elle qui sort. On a fermé les discothèques. C'est elle qui a envie de voyager.
Ils sont toujours fermés d'ailleurs.
Exactement, mais pour pas longtemps encore. Et on a fait le plus dur. Je crois qu'il faut juste attendre jusqu'au 16, et puis après, elle sera levée. On retrouvera le plaisir de se retrouver. Mais dans le fond, pourquoi c'est eux qui ont payé le plus gros tribut? Pourquoi? Parce que c'est à ces moments-là où tu as les plus beaux souvenirs. Tu voyages, tu fais des colos, tu as tes premiers amours, tu as
ton
premier appart.
Donc avec le recul, est-ce qu'on referait la même chose? Non, on serait moins dur avec cette jeunesse. Et on demanderait peut-être un peu plus aux personnes âgées et aux personnes qui étaient directement touchées par ce virus. Non,
l'idée qui a vraiment été du début à la fin de cette gestion, et même si on n'en est pas encore totalement sorti, ça a été de dire comment tu ne crées pas de guerre entre les générations? Comment tu fais pas l'un contre l'autre et comment finalement tu accompagnes tout le monde? Et donc notre job, ça a été de dire quoi?
Mais ça a eu plus de conséquences pour les jeunes que pour les vieux.
Socialement, c'est vrai, mais c'est bien pour les jeunes que on a fait par exemple vacances apprenantes, 1 million de jeunes qui sont partis cet été pour respirer en vacances. C'est pour eux qu'on a relancé les mobilités avec le doublement par exemple des départs Erasmus+. J'ai pas envie de rentrer dans la liste.
On a inventé aussi des trucs comme ça, vacances apprenantes, plage dynamique.
C'est pour permettre à des jeunes qui partent pas et finalement de pouvoir partir.
C'est
aussi pour s'amuser, ça irait. Mais par exemple, le président, ça a été un peu son leitmotiv, parce que voilà, c'est un peu le cap qu'il nous a donné, c'est de dire, eh bien, on va tout faire pour qu'elle soit pas sacrifiée, parce que si on la laisse, effectivement, elle va être sacrifiée. Résultat des courses, à la sortie de la crise, bah, c'est le taux de chômage le plus bas depuis 92 pour ceux qui travaillent. Oui. C'est
Aussi les taux de suicide chez les jeunes, dépressions. S'ils le disent, ça va laisser des traces. Alors ça se voit moins tout de suite comme le Covid où on perd de goût, mais les méfaits psychologiques, les troubles psychologiques, ils sont là.
Ils sont là. Ouais. Et vous savez, quand vous avez deux ans où vous vivez pas comme vous avez envie de vivre, et en plus, vous les avez attendus, vos 18 ans. Moi, j'oublie pas ma première année de fac.
Et on les vit une fois.
C'est les meilleurs souvenirs. Parce que c'est ton premier appart, t'as de la liberté. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Eh bien, pour ne pas les priver de tout ça, notre job, c'est de faire qu'ils puissent retrouver un max, une situation dans un pays qui est fait pour eux, qui n'est pas dramatique.
C'est trop tard, c'est passé.
En attendant, le taux de chômage.
Ça veut rien dire. Si vous mettez le SMIC à 50 euros, il y a plus de chômage.
Madame la ministre.
3 millions de jeunes. Non,
ce qui est important, c'est quand même les moyens qui sont donnés aux jeunes pour vivre. Il y a une précarité, même chez les jeunes qui travaillent, il y a une énorme précarité. Le taux de chômage ne veut rien dire.
Un euro au CROUS. Alors, c'est ça la réalité.
Non, c'est une partie de la réalité.
Malheureusement,
la jeunesse, elle n'est pas un euro et ne se prostitue pas. Non,
oui, tu as des jeunes.
Oui, c'est une infime minorité.
Ben oui,
il y a des adultes aussi. Mais pas. Alors, on peut pas résumer la jeunesse.
Non, franchement, si on veut être sincère vis-à-vis d'eux, déjà il y a pas une baguette magique pour les jeunes. Il y en a pas deux qui se ressemblent. Non. Quand vous vivez à Nantes chez moi, ou vous vivez à Aurillac, ou dans la Creuse ou à Guéret, vous avez pas du tout la même jeunesse. Non, vous avez pas la même jeunesse.
Vous ressentez l'électricité sur le cheval
en même temps.
Quand vous êtes apprenti, quand vous êtes à la fac, quand vous êtes parent à 20 ans, vous n'avez pas la même vie. Nous, notre job, c'est de faire que chacune de ces jeunesses, ben, je suis désolée, elle ait l'accompagnement qu'il lui faut. Et donc, quand tu regardes, moi j'ai été voir pendant le Covid des jeunes qui étaient apprentis dans des entreprises, et ben franchement, les 8000 euros qu'on a donnés aux entreprises pour leur dire, franchement, là on a besoin de vous, allez-y. 525 000 jeunes apprentis cette année, on a dépassé les records de 2019. C'est dire, alors qu'on est dans une période quand même économique particulière. Et moi, mon job, c'est pas de pas lutter contre la prostitution des mineurs et dire que les autres, ils sont apprentis, ils sont bien. C'est de regarder chacune d'entre elles et dire, ok, prostitution des mineurs, qu'est-ce qu'on fait? Et on le fait avec Adrien Taquet. Il y a un plan massif pour les sortir, pour faire parler les gens, pour condamner ceux qui les poussent au proxénétisme, pour faire plier les plateformes. De l'autre côté, t'as quoi? Ben, t'as des jeunes qui ont envie de voyage et dont les parents peuvent pas parce que ils ont pas les moyens. Et ben, eux, on dit quoi? Ben, l'Europe, c'est aussi fait pour vous. Et on s'en fiche que vous ayez des études supérieures ou pas parce que l'Europe, elle est pour tout le monde en voyage. Et ça, c'est Erasmus+.
Thomas Porcher.
Et chacune d'entre elles mérite d'être accompagnée.
Thomas Porcher.
En dehors de la pandémie, qui je pense aurait été pour tout le monde difficile à gérer. Moi, il y a quand même, je vois sur le quinquennat, ça a commencé suppression des APL. Et on a une ministre qui fait partie de votre gouvernement qui était quand même contente d'avoir fait 1 milliard d'économies. Bon, les APL, vous avez parlé de votre appartement quand vous étiez jeune, étudiante. Voilà, il y a des APL qui vous aident. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, il y a eu quand même les coupes sur les collectivités locales. Macron a poursuivi ce qu'a fait Hollande. Je veux dire,
pas du tout.
10 milliards d'économies.
Et là,
je veux dire, quand vous voyez, le périscolaire, il y a des cours du soir à la Courneuve qui ont été supprimés. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens.
Mais le périscolaire, c'est pas le financement de l'État. Enfin, je veux dire, qu'on soit honnête.
Oui, les collectivités locales qui reçoivent de l'argent de l'État. Quand vous avez, en fait, le budget de l'État qui a été divisé par deux depuis, ça a commencé sous Hollande, poursuivi par Macron avant, vous avez des effets sur le périscolaire, vous avez des effets
c'est
sur
les conséquences du gouvernement Hollande.
Oui, mais qui ont été poursuivis par Macron, qui vous avez des effets sur le.
Mais monsieur Macron,
la culture. Mais on n'a pas baissé les DGF pour le coup. Pas un euro, sincèrement.
Pas un euro par rapport à la situation d'Hollande qu'ils avaient baissé.
Mais alors dites, on n'a pas baissé.
On a stabilisé. Valls ou Macron était ministre.
On a stabilisé. Mais juste pour être honnête.
Stabilisé, mais elles ont été divisées par deux dans les collectivités locales les plus pauvres.
Mais nous, on n'a pas baissé d'un euro.
Oui, c'est 10 milliards d'économies. Vous avez continué ce qu'a fait Hollande.
Mais c'est pas la nôtre. Je suis désolée. Moi, j'assume les économies qu'on a faites. J'assume aussi qu'on ait baissé 52 milliards d'impôts. Oui, on l'a baissé pour les ménages en supprimant la taxe d'habitation, on l'a baissé pour les entreprises pour garder de la compétitivité. Ça, c'est vrai, c'est nous. Par contre, je suis désolée pour les collectivités, non, on n'a pas baissé le budget. On a stabilisé.
Il était ministre d'Hollande, il n'y est pas.
Moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Quand on fait 100 milliards d'investissements massifs pour le plan de relance, ou quand on protège à peu près tout le monde, quand tu fais du chômage partiel pour tout le monde, ou que tu fais des soutiens financiers.
Non, c'est dire, parce que Macron, en fait, tout ce
Madame Alaïri, là. Voilà ce qu'on a fait. Alors, si Emmanuel Macron se représente pour l'élection présidentielle, c'est qu'est-ce qu'il promet pour cette jeunesse?
Ce sera quoi
le thème du deuxième mandat et qui ferait que la jeunesse et d'autres iront de nouveau voter?
Là, vous êtes fétichiste de ce mot.
Voter de nouveau pour Emmanuel Macron.
L'inflation de l'économie, c'est aussi lui qui l'a théorisé.
Il a changé depuis Thomas.
C'est lui qui l'a théorisé.
On reconnaît quand même qu'il a changé.
Il a veut faire bosser les jeunes 45 heures par semaine. C'est ce qu'il a dit l'autre fois, et c'est ce qu'il a dit devant Cohn-Bendit.
Il a vraiment changé. La jeunesse, avec Macron 2, c'est des facs payantes, des jeunes qui doivent bosser 45 heures, c'est quoi?
Franchement, là, c'est, c'est vraiment de la, c'est vraiment une caricature. Qu'est-ce qu'il dit le président? Non, mais qu'est-ce qu'il dit le président? Il dit, quand t'es jeune et que t'as envie de travailler, il faut que tu puisses travailler parce que c'est le moment où t'as le plus d'énergie. Et si tu en as envie, il faut que tu puisses le faire. Et ben moi, ça, ça me va.
Si on dit, t'as pas d'enfant comme lui, mais bon.
Si,
après...
si tu dis, non, mais voyez, voyez, en fait, vous jugez sa vie privée, non, alors que dans le fond, mais, moi, j'ai travaillé en étudiant. Moi, ouais, pendant mes études, j'ai travaillé.
Des enfants qui veulent aussi passer du temps avec leurs enfants.
Alors pour le coup, j'ai pas l'occasion d'expliquer tout ce qu'il a envie de, tout ce qu'on a envie de faire collectivement comme projet.
Mais moi aussi, j'ai travaillé pendant. Mais vous êtes comme moi au contact des gens. Moi, je vois beaucoup. Moi, par exemple, dans la crèche de mon fils, je donne toujours. Mais c'est des exemples de la vie de tous les jours. Il y avait une jeune femme qui avait déjà un problème au bras parce qu'elle porte des bébés toute la journée. Et là, vous allez dire à cette jeune femme qui bosse dans une crèche, bosse 45 heures alors qu'elle est déjà abîmée.
Mais c'est pas du tout ce qu'il dit.
Les gens qui sont abîmés à 40 ans, à plus de 40 ans, c'est des gens qui ont forcé sur leur travail entre 20 et 30 ans.
Mais c'est un ami qui est chauffeur.
Il avait deux boulots entre 30 et 40 ans. Il faisait les 45 heures que Macron rêve. Aujourd'hui, il est cassé. Donc il y a les 45 heures de Jacques Attali et de Macron à Rothschild et de moi aussi de professeur en train d'écrire des livres. Il y a les 45 heures des autres qui, avec le travail, qui abîment. Et on peut pas dire comme ça 45 heures pour les jeunes.
C'est quoi Macron 2 pour les jeunes?
C'est déjà prendre en considération l'ensemble des jeunes et pas dire comme ce qu'on entend à droite ou à gauche, il y a une seule mesure, c'est le RSA ou c'est la suppression des droits de mutation quand tu achètes une maison à plus de 200 000 euros, parce que moi j'en connais pas des jeunes qui achètent des maisons à 200 000 euros. Ça c'est la vérité. Par contre, les jeunes, ils ont envie de quoi? Déjà dans leur, si on les regarde, il faut regarder leur diversité. Il y a des jeunes qui rêvent d'avoir un appartement, un logement et c'est galère. Pour eux, c'est l'accompagnement.
Parce qu'il n'y a pas assez de logements déjà.
C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Oui, et donc,
c'est
du
trop
coup,
cher parce qu'il
n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et aussi parce que dans les centres-villes, quand tu veux aller dans une université de centre-ville, eh ben, c'est super cher. Et quand tes parents ne peuvent pas être caution, eh ben, on fait quoi? Aujourd'hui, on a renforcé la garantie visale et on a lancé avec Vargon, avec Emmanuel Vargon, là, typiquement. Typiquement, une mesure qui permet, qui permet aux propriétaires bailleurs, donc ceux qui ont les propriétaires des appartements, s'ils baissent leur loyer pour le rendre plus accessible, ben ils ont un avantage fiscal, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus d'argent que s'ils baissent le loyer.
Mais globalement, les jeunes, baisser les APL, les jeunes, madame,
5 euros, et franchement,
c'est énorme.
Et franchement, madame, attendez, je veux bien, 5 euros d'APL, on a supprimé la sécurité sociale que payaient les étudiants, 192 euros. Et quand le président de la République, dit, la fac, il faut que, effectivement, on a un tiers d'élèves qui sont aujourd'hui boursiers dans nos universités, il y a le gratuit, vous savez très bien que ça n'existe pas. C'est quand même l'argent général de tout le monde. Eh bien oui, il faut plus de moyens dans nos universités. C'est ce que nous faisons. Mais il ne dit pas qu'il faut payer. Il dit simplement qu'il faut que ce soit plus juste et que ceux qui peuvent payer, payent. Moi, je trouve ça honnête de le dire comme ça, au lieu de faire l'autruche et se dire tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai. Les jeunes, ils ont envie de travailler.
Donc, il faudra payer plus en fonction des revenus, l'inscription.
C'est pas exactement stabilisé. La réflexion, c'est de faire comment on accompagne mieux ceux qui en ont le plus besoin. C'est la philosophie qui est la nôtre. C'est pour ça que, effectivement, il y a eu 11 millions de repas à 1 euro qui ont été versés, qu'on a baissé le coût d'inscription, qu'on a gelé les bourses. Enfin, bref, les jeunes, ils ont envie de s'en sortir. On a un magnifique pays. Ils en ont marre qu'on dise que notre pays, il n'est pas là au-dessus.
Merci.
Je suis tout à fait d'accord avec
vous. Pour aller faire la bamboche. Merci, Sarah Lahiri, secrétaire d'État à la jeunesse. Merci d'être passée par les GIGI.